Bonjour, ici Marc, bienvenue au 69e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de l'Arcane Rose, La superstition la plus dangereuse. Ce dont parle ce livre peut être difficile à entendre car il apporte une vision du monde très différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Je suis passé par une période de peur en commençant à entrevoir que je m'étais trompé sur ce qui se passe et qu'il y a des gens avec beaucoup de pouvoir qui ne veulent pas le bien de tous. Ce qui m'a rassuré, c'est de réaliser que ces gens puissants sont comme tout le monde. Ils ne font du mal que parce qu'ils ont besoin d'aide. Car lorsqu'on veut du mal aux autres, c'est parce qu'on souffre soi-même. Et que donc, pour arriver à la paix et à une société basée sur la bienveillance et le consentement, il est nécessaire que ces gens trouvent eux aussi du soulagement. Et ça, trouver du soulagement et retrouver le bonheur, je suis persuadé que c'est faisable pour tout le monde. Plusieurs aspects ont été abordés dans les épisodes précédents du podcast. Mais revenons à nous libérer de cette superstition qui cause tant de malheurs. Voici le chapitre d'aujourd'hui. Diaboliser la victime. Il est important de souligner que dans les expériences de Milgram, les sujets pensaient qu'ils envoyaient des chocs à des inconnus innocents. Il n'y avait aucune accusation que la personne choquée était une mauvaise personne ou avait fait quelque chose d'immoral. Il devrait être évident que si l'individu moyen inflige sur ordre de l'autorité, une douleur à une personne innocente, il infligera également une telle douleur, avec moins d'hésitation et moins de culpabilité, à une personne qu'il imagine mériter une telle douleur. L'armée américaine, et sans doute de nombreuses autres armées, a mené de nombreuses recherches pour déterminer ce qui peut être fait pour surmonter l'aversion naturelle d'un soldat pour le meurtre, afin qu'il tue sur ordre. L'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est de diaboliser et de déshumaniser celui qu'on lui demande de tuer. Dans les guerres modernes, les gouvernements des deux camps alimentent leurs soldats d'une propagande constante visant à dépeindre l'ennemi comme une bande de monstres sans cœur, vicieux, sadiques et inhumains. Ironiquement, cela devient une prophétie autoréalisatrice car cette propagande fait des deux camps des bandes de monstres sans cœur, essayant avec zèle d'exterminer les ennemis qu'ils ne considèrent pas comme des êtres humains à part entière. Des tactiques similaires sont utilisées par les forces de l'ordre. Les mercenaires engagés par le gouvernement sont beaucoup plus susceptibles d'infliger l'injustice et l'oppression à quelqu'un si cette personne a d'abord été déshumanisée et diabolisée. La terminologie utilisée par les maîtres, les exécutants et tous les autres constitue une forme très efficace de contrôle de l'esprit qui modifie la façon dont les exécutants et leurs cibles perçoivent la réalité, affectant ainsi le comportement des deux groupes. Ces termes renforcent l'idée que l'obéissance à l'autorité est une vertu et que la désobéissance est un péché. Ce qui se passe, c'est qu'un groupe de personnes émet un ordre et que les exécutants l'imposent aux masses en punissant la désobéissance. C'est ce que font la mafia, les gangs de rue, les tyrans des cours de récréation et tous les gouvernements. Alors que le message de la plupart des voyous est généralement direct et honnête, « faites ce que je dis ou je vous fais du mal », le message du gouvernement implique une grande part de psychologie et de contrôle mental, ce qui est essentiel pour que les mercenaires de l'État se sentent justifiés d'infliger l'oppression à d'autres. Les tyrans du gouvernement se présentent comme des législateurs qui ont le droit de gouverner la société, présentent leurs ordres comme des lois et décrivent tous ceux qui désobéissent comme des criminels. Et contrairement aux gros bras de la mafia, ceux qui administrent les châtiments à tous ceux qui désobéissent aux politiciens sont présentés non pas comme de simples voyous payés pour brutaliser, mais comme de nobles responsables de l'application de la loi, qui protègent à juste titre la société de tous les contrevenants à la loi, méprisants et incivils. Cette propagande est très efficace, non seulement pour inciter les agents autoritaires à commettre des actes de violence à l'encontre d'innocents, mais aussi pour qu'ils s'en sentent fiers. Ils sont convaincus, grâce à leur endoctrinement autoritaire, qu'ils traduisent les criminels en justice et qu'ils maintiennent ainsi l'ordre public dans l'intérêt de la société. Mais ce qu'ils font en réalité, le plus souvent, c'est utiliser la violence pour contraindre tout le monde à obéir aux ordres des politiciens, aussi immoraux, arbitraires, socialement ou économiquement destructeurs ou carrément stupides que soient ces ordres. Il y a une grande différence dans les connotations des deux termes, agent de la force publique et homme de main de politicien. Il n'y a cependant aucune différence dans ce qu'ils signifient littéralement. Mais en persuadant les agents d'exécution que la violence qu'ils utilisent constitue une application de la loi intrinsèquement juste et noble, on peut modifier leur perception de telle sorte qu'ils imposeront volontiers et fièrement la volonté de la classe dirigeante à leurs semblables. Les exemples sont aussi nombreux que les lois, mais ils appartiennent tous à l'une des deux catégories suivantes. Les interdictions, par lesquelles les hommes politiques proclament que les sujets ne sont pas autorisés à faire une certaine chose, et les exigences, par lesquelles les hommes politiques proclament que leurs sujets doivent faire une certaine chose. Un exemple de chacune de ces catégories suffira à illustrer le propos. Interdiction. Les tyrans publient un décret interdisant à leurs sujets de posséder de la marijuana. Cette interdiction est proclamée comme étant la loi, et tous ceux qui y désobéissent sont considérés comme des criminels. Les tyrans dépensent alors d'énormes sommes d'argent, prélevées sur leurs sujets par le biais d'une autre loi, pour payer des mercenaires, des armes, des véhicules blindés, des prisons, etc., dans le seul but de capturer tous ceux qui sont surpris en train de désobéir à leur loi. Considérons maintenant le point de vue de l'officier de police, chargé de faire respecter cette loi qui découvre que quelqu'un a vendu de la marijuana à des clients consentants. Si l'officier pouvait considérer objectivement la situation, sans que le mythe de l'autorité ne vienne fausser sa perception, il verrait immédiatement que son travail est non seulement immoral, mais aussi complètement idiot et hypocrite. Son travail étant de capturer physiquement quelqu'un dans le but de le mettre en cage pendant un long moment, pour avoir fait quelque chose qui n'était ni frauduleux ni violent. En fait, jusqu'à l'arrivée du policier, toutes les personnes impliquées, cultivateurs, revendeurs, vendeurs, acheteurs, utilisateurs, ont interagi pacifiquement et volontairement. En outre, si le policier a déjà consommé de l'alcool, il s'est rendu coupable d'un acte moralement identique à celui du criminel. Néanmoins, il se considérera comme le courageux, le juste et le noble représentant de la loi, lorsqu'il participera à une invasion armée et paramilitaire du domicile de la personne et qu'il capturera et entraînera de force le fraudeur loin de ses amis et de sa famille. L'agent rentrera ensuite chez lui et boira une bière et, bien entendu, il ne réagira pas aimablement à quiconque tenterait de l'en empêcher par la force. La seule différence, qui n'en est pas une, est que les politiciens ont inventé un commandement concernant une substance psychotrope, la marijuana, et pas l'autre, l'alcool. En conséquence, l'officier croira sincèrement que l'utilisation d'une de ces substances altérant l'esprit est un comportement bon, sain et américain, tandis que l'utilisation de l'autre est louche, immorale et criminelle, et justifie même l'agression violente et l'enlèvement des contrevenants. Exigence. Les tyrans promulguent une loi stipulant que tous leurs sujets qui possèdent des biens immobiliers doivent leur verser chaque année un montant correspondant à 2% de la valeur de leurs biens. Cette exigence est appelée impôt foncier et est proclamée comme étant la loi. Et tous ceux qui y désobéissent sont des criminels et des fraudeurs fiscaux. Les tyrans mettent alors en place une organisation de collecteurs d'impôts chargés de trouver tous ceux qui désobéissent, soit pour leur soutirer de l'argent par la force, soit pour les expulser par la force de leur propriété et saisir celle-ci pour les donner aux tyrans. Bien sûr, si quelqu'un faisait cela sans toute la propagande autoritaire, cela s'appellerait de l'extorsion. Tu dois me payer un tas d'argent chaque année ou je ne te laisserai pas vivre dans ta propre maison. et très peu de gens, y compris ceux qui travaillent aujourd'hui comme collecteurs d'impôts, voudraient faire partie d'un tel système de racket. Pourtant, lorsque la même chose est faite légalement, non seulement les gens ordinaires acceptent de travailler dans un tel racket, mais ils montrent du mépris pour ceux qui s'y opposent. Ceux qui essaient de ne pas se faire voler sont considérés comme des fraudeurs cupides qui ne veulent pas payer leur juste part. Et ceux dont le travail consiste à prendre de force l'argent ou les biens de ces fraudeurs fiscaux le font généralement avec un sentiment de droiture parce qu'ils croient vraiment que l'autorité de la loi peut prendre ce qui est généralement un acte immoral, le vol, l'extorsion et le racket, et le transformer en quelque chose de juste et de légitime. Ils commettent donc des vols en masse, s'en félicitent et méprisent leurs victimes. Tel est le pouvoir de la plus dangereuse des superstitions. Les étatistes affirment souvent que la taxation n'est pas du vol, car les gouvernements utilisent les recettes fiscales pour des choses qui relèvent du bien commun, de sorte qu'il s'agit simplement pour les gens de payer pour les biens et les services qu'ils reçoivent. Un tel argument ne tient pas compte de la nature fondamentale de la situation. Un simple exemple montre bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Supposons qu'un inconnu s'approche de vous et vous dise qu'il a tondu votre pelouse ou qu'il a laissé un objet chez vous et qu'il exige maintenant que vous lui donniez 1 000 $ alors que vous n'avez jamais accepté un tel arrangement. Il est évident qu'il s'agirait d'une extorsion et que vous n'auriez pas l'obligation de payer, même s'il avait réellement tondu votre pelouse ou laissé un objet chez vous. Personne n'a le droit, sans votre consentement, de vous fournir un objet ou un service, alors que vous ne l'avez pas demandé et que vous ne voulez pas l'acheter, et de vous prendre ensuite par la force ce qu'il déclare que vaut cet objet ou ce service. Et pourtant, c'est exactement ce que tous les gouvernements, à tous les niveaux, font toujours. Lorsque les cibles d'une agression autoritaire sont diabolisées et déshumanisées avec succès, il n'y a pratiquement aucune limite au degré de violence et d'injustice que ceux qui croient en l'autorité sont prêts à commettre. Pour tous ceux qui auraient encore l'espoir que la conscience des soldats américains et des forces de l'ordre puisse limiter le niveau d'injustice qu'ils sont prêts à infliger à de parfaits inconnus, il existe de nombreux exemples concrets qui prouvent le contraire. L'un des plus connus est sans doute le massacre de My Lai pendant la guerre du Vietnam, où les troupes américaines ont non seulement assassiné des centaines de civils non armés, principalement des femmes et des enfants, mais ont également agressé sexuellement et torturé certains d'entre eux, et où certains soldats se sont ouvertement réjouis de la souffrance et de la mort de leurs victimes, d'après les propres témoignages des soldats. C'est ce qu'ont fait les soldats américains en raison de leur loyauté au mythe de l'autorité, combiné à la diabolisation et à la déshumanisation de leurs victimes. Les soldats eux-mêmes l'ont dit sans détour, l'un affirmant qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres, un autre que la plupart des soldats américains sur place ne considéraient pas les Vietnamiens comme des êtres humains. Il convient de noter que certains soldats américains ont tenté sans grand succès d'arrêter ou de limiter le massacre. S'il s'agit de l'un des exemples les plus célèbres d'atrocités commises par les troupes américaines en temps de guerre, ce n'est certainement pas le seul. En fait, de nouveaux exemples de sadisme des soldats américains ne cessent d'être révélés. Alors que dans les expériences de Milgram, certains sujets démontraient verbalement ou par leur comportement qu'ils se sentaient mal à l'aise à l'idée d'infliger des blessures à un inconnu innocent, les forces de l'ordre et les soldats à qui l'on a d'abord appris à mépriser un ennemi, obéissent aux ordres autoritaires avec encore plus d'empressement, souvent d'une manière qui montre qu'ils prennent plaisir à infliger la douleur et la mort à leurs victimes. C'est ce qu'ont clairement montré les images de la prison d'Abu Ghraib en Irak, montrant que les troupes américaines, hommes et femmes, non seulement pratiquaient la torture mentale et physique, mais se réjouissaient et s'amusaient des souffrances de leurs victimes, posant même volontiers devant l'appareil photo tout en humiliant, agressant, torturant et violant leurs prisonniers. Les administrations Bush et Obama ont toutes deux empêché la publication d'une grande partie des preuves photographiques de ces tortures par crainte de l'effet que ces images auraient sur l'opinion des militaires et du pays, tant chez les Américains que chez les étrangers. Une fois encore, bien que les preuves montrent que ces tortures ont été pratiquées sur ordre des plus hauts niveaux du gouvernement, il est important de noter que ceux qui ont exécuté ces ordres de l'autorité ont clairement manifesté une jouissance sadique de la douleur et de la souffrance qu'ils infligeaient à d'autres êtres humains. Quelqu'un qu'ils percevaient comme une autorité leur avait dit qu'il était noble et juste de haïr et de blesser l'ennemi. C'est ce qu'ils ont fait et ils y ont pris plaisir. La même attitude et la même mentalité se retrouvent dans diverses actions de maintien de l'ordre, telles que l'assaut de Ruby Ridge en 1992 et le raid, le siège et le massacre final près de Waco au Texas en 1993. Dans aucun de ces cas, les autorités n'ont poursuivi quelqu'un qui avait réellement blessé ou menacé quelqu'un d'autre. Dans les deux cas, il s'agissait d'agressions paramilitaires fondées sur la possession présumée d'armes à feu illégales. Lors de l'incident de Waco, 80 personnes, dont des hommes, des femmes et des enfants, sont mortes après avoir été torturées mentalement et physiquement pendant des semaines, notamment en les privant de sommeil et en les aspergeant de gaz lacrymogène. Les victimes ont été diabolisées tant pour le public que pour les forces de l'ordre. Et les agresseurs gouvernementaux ont manifesté à la fois du mépris pour leurs victimes et de l'enthousiasme à l'idée de les tuer. La même attitude générale peut être observée dans des dizaines de vidéos de violences policières montrant la police en train d'intimider avec enthousiasme et même d'agresser physiquement des personnes qui ne représentent une menace pour personne et qui ne se défendent même pas ou n'opposent pas de résistance. Ceci est le résultat direct de la conviction des responsables de l'application de la loi que tous les autres sont en dessous d'eux et que, en tant qu'agents de l'autorité, ils ont le droit de se faire traiter comme des supérieurs par tous les autres, de les faire ramper devant eux et obéir à leurs ordres sans poser de questions. Le même schéma peut être observé chez les collecteurs d'impôts et autres bureaucrates. Il importe peu de savoir dans quelle mesure la croyance en l'autorité crée réellement des tendances sadiques et dans quelle mesure elle ne fait que libérer des tendances déjà présentes. Le fait est qu'en prétendant décharger l'individu de la responsabilité de ses propres actes, en lui ordonnant d'infliger du mal à autrui et en lui disant qu'il est non seulement permis, mais vertueux de faire du mal à une cible particulière, le mythe de l'autorité transforme des millions d'individus normaux et décents en monstres et en agents sadiques du mal. Les facteurs qui poussent normalement les gens à se comporter de manière civile et non violente, qu'il s'agisse des vertus internes de l'individu, de son attachement à des principes ou bien à des croyances religieuses ou simplement de son inquiétude quant à ce que les autres pourraient penser de lui ou pourraient lui faire, sont facilement vaincus et annulés par la croyance en l'autorité. En résumé, le moyen le plus efficace d'étouffer l'humanité et la décence de tout individu est de lui enseigner à respecter et à obéir à l'autorité. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Et laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît, ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de « La superstition la plus dangereuse », ce que signifie porter l'uniforme.